Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, bienvenue à tous. Aujourd'hui, le repos musical vous est présenté par Fred. Dans cette émission consacrée à la musique classique, nous allons aborder, justement, l'époque dite classique. C'est en effet par extension de cette période qu'on appelle musique classique toute la musique savante européenne du Moyen-Âge à la musique contemporaine. Comprenons musique savante par opposition à la musique populaire. Il convient donc de bien dissocier la musique de style classique d'avec l'ensemble de la musique classique. Refermons la parenthèse et plongeons sans attendre au cœur du sujet en musique. Nous venons d'entendre « Ça en effet » de Louis-Ferdinand Hérold dans Le Pré au clair par l'orchestre Jésus Etcheverry. La période classique va s'étendre de la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'au tout début du XIXe. Elle recouvre par convention la musique écrite entre la mort de Bach en 1750 et le début de la période romantique vers les années 1820. Trait d'union entre la période baroque et la période romantique, c'est l'âge d'or de la musique instrumentale, avec l'apparition de nouveaux instruments comme le piano forte. Celui-ci détrônera progressivement le clavecin en raison de ses qualités expressives. Son nom, piano forte, vient du fait qu'il pouvait produire des sons forts et doux. C'est à cette période également que se développent les sonates, quatuors, concertos et symphonies. C'est aussi la naissance du grand orchestre symphonique, ensemble imposant, où chaque instrument va avoir sa place bien définie, disposée par famille et placée selon leur force de jeu. Avant d'aller plus loin, il convient de remarquer que le terme classicisme en musique n'a que peu de lien avec son emploi dans les autres formes d'art et en littérature particulièrement. Il est frappant de remarquer que les tragédies de Racine sont considérées comme le modèle de théâtre classique français, mais ne sont absolument pas contemporaines de Mozart ou de Gluck, et encore moins de Beethoven. D'autre part, les limites de la période classique en musique sont extrêmement floues. L'évolution de la musique au XVIIIe siècle, comme à toute époque, s'est faite à des rythmes différents selon les compositeurs et les pays. Depuis le XIXe, la période définie comme classique, en France, a aussi beaucoup évolué dans le temps. Jean-François Paillard situe la musique française classique entre 1600 et la mort de Rameau en 1764. Mais la définition contemporaine se baserait davantage sur les compositeurs allemands et autrichiens, renvoyant de façon très discutable les Français de la seconde moitié du XVIIe et de la première moitié du XVIIIe à la dénomination de « baroque ». Enfin, La fin de l'ère baroque ne signifie pas forcément le début de l'ère classique. On appelle pré-classique les compositeurs faisant la charnière, et plus particulièrement ceux de l'école de Mannheim et les fils de Bach, Carl Philipp Emanuel, compositeur révolutionnaire, mais aussi Jean Chrétien Bach, qui exerceront notamment une influence décisive sur le jeune Mozart.
Je l'aime encore.
Sonata pour violon et basse continue de Johann Gottlieb Grön par Nathalie Pfeiffer, Comme un éclair d'André Gretti par Maria Perbos, Concerto pour harpe de Dietersdorf par Marisa Robles, La Cecina de Niccolo Piccini par Ugo Bellini. Trois grands compositeurs ont particulièrement marqué cette période, Mozart, Haydn et Beethoven. Ce dernier fait d'ailleurs le lien avec l'époque suivante, la période romantique. De nos jours, la musique classique est synonyme de rigidité de forme, de symétrie et de répétition. Pourtant, pour ses contemporains, ce genre nouveau rompait avec l'entrelac des mélodies, fioritures et fugues interminables du contrepoint complexe du baroque. Le nouveau style était alors synonyme de liberté et d'exploration de sentiments humains, et même d'exploration tout court. Le langage classique se définit par des règles très strictes, une grande rigueur formelle, une grande simplicité harmonique et un sens développé de la mélodie. Le principe de contraste au sein d'une même pièce est l'élément moteur du langage classique. En outre, l'ère classique voit la disparition de la basse continue qui transforme la musique d'alors. On passe globalement de l'utilisation de figures prédominantes à l'ère baroque à la structuration à partir de phrases musicales ponctuées et à l'élaboration de tout ce système de ponctuation, comme les cadences, et, ce faisant, on glisse des procédés analogiques vers des procédés se rattachant à une logique discursive proche de celle de la langue, comme une autre forme de la parole. Le trait le plus frappant du langage harmonique classique est son économie de moyens. Alors que la période baroque a vu naître une harmonie riche et complexe, les compositeurs de la seconde moitié du XVIIIe simplifient progressivement leur palette d'accords et de degrés jusqu'à n'utiliser quasiment plus que des accords parfaits de dominante, de tonique et de sous-dominante, parfois aussi de sixte augmentée ainsi que l'accord de septième de dominante. Cette simplification va de pair avec la multiplication des emprunts et des modulations locales ou à grande échelle. On assiste parallèlement à une raréfaction des marches harmoniques, plus souvent modulantes et moins longues que dans la musique baroque.
Tra tieni Oh!
Nous venons d'entendre Orphée et Eurydice de Gluck, direction René Jacob. Concerto pour flûte de Franz Benda par l'orchestre de chambre de Colmar. Médée de Luigi Cherubini par Maria Callas et Nicolas Zaccaria. Sonate en si mineur de Domenico Cimarosa par Jeff Sigurdsson. Zingarella de Giovanni Paisiello par Renata Tebaldi. Concerto pour luth de Johann Georg Albrecht Berger. Albin Paulus à l'harpe juive, plus communément nommé Guimbarde. Contrairement aux romantiques, qui apporteront à la musique des nouveautés rythmiques inédites, les compositeurs classiques n'innovent que très peu en la matière. Pourtant, c'est en grande partie là que se joue l'essentiel de la révolution classique, qui recherche des contrastes rythmiques, des cassures, des oppositions. Cette différence d'approche est résumée par Charles Rosen. Tous les menuets de Bach se déroulent sans heurts, de façon presque uniforme, flux régulier, qui chez Haydn se transforme en une série d'éléments articulés, d'éléments dramatiques qui, parfois, vont même jusqu'à surprendre. Tout comme la charnière entre le baroque et le classique, celle qui sépare l'ère classique de l'ère romantique est on ne peut plus mal déterminée. Ainsi, quand on dit que les symphonies de Mozart expriment à un très haut point le romantisme en musique, on ne peut que s'interroger sur la pertinence d'une frontière précise entre les deux courants. Beethoven est probablement le compositeur qui marque le plus symboliquement cette charnière, dans le sens où, s'il est indiscutablement classé parmi les compositeurs classiques, il demeure incontestablement aussi l'un des premiers grands romantiques. Classique parce que prométhéen, et que ses premiers opus ne diffèrent pas tellement des œuvres de ses prédécesseurs, et romantique, parce que passé les années de jeunesse, son œuvre acquiert tous les attributs du romantisme, et qu'elle laisse loin en arrière tous ceux qui s'étaient écrits jusque-là, tant au niveau du langage que des proportions et des formes de ses œuvres. La période classique peut être vue comme une période de stabilisation de la musique savante occidentale. L'idée dramatique de la période classique sera reprise et amplifiée à l'extrême par les romantiques, la forme sonate devenant la forme par excellence des compositions d'envergure. Le début du XIXe siècle sera marqué par l'esprit de la Révolution française, influençant également la musique. Ainsi, les artistes se libèrent petit à petit du pouvoir des princes, laissant place à des créations plus personnelles. Grâce à l'apparition de salles de concert, les musiciens vont se produire devant un plus large public et s'assurer une autre source de revenus.
Oh, no. Que vous désirez, que vous désirez.